Un livre pour un auteur, c'est un peu un rêve, surtout s'il parle d'un espace retranché par les plus hautes montagnes du monde, comme le Tibet. Surtout si ce pays des neiges et des monastères est aussi interdit par la police et par l'armée. Cet espace, en septembre 2008, je l'ai pénétré 15 jours avec Laurent Zilberman, mon ami le photographe. Nous avons pu visiter beaucoup d'endroits dans ce décor féerique de lacs et de hautes montagnes. J'ai vu les plus célèbres monastères, un hôpital traditionnel, une école pour aveugles dirigée par un père jésuite. Nous avons trouvé par hasard un festival des morts où des milliers de Tibétains fêtent et dansent 3 jours et 3 nuits sous la surveillance de policiers anti-émeutes. Nous avons aussi découvert Lhasa, Shigatse, Gyantse, la ville où, en 1906, le colonel britannique Young Husband écrasa l'armée du Dalai Lama, s'ouvrant ainsi la route de Lhasa. Je dirais que c'est à la fois un carnet de voyage, un livre d'émotion et aussi un texte de référence. Le livre observe une foule de personnages insolites et aussi d'attitudes tibétaines, comme l'humour ou l'hospitalité, qu'on ne pratique pas au Tibet comme ailleurs en Chine. Observation aussi de la nature, de la lumière très brillante et de l'effet sur nos corps d'un air à 4000 mètres de hauteur raréfié en oxygène. Nous avons donc connu l'ivresse de l'altitude qui vous rend hors d'haleine et plein de sentiments oniriques, spirituels et de pureté. Tibet, dernier cri, analyse ce qu'il voit. J'observe le mouvement très rapide, par exemple, de clôture d'une prairie qui était le chemin de transhumance depuis des millénaires et où les troupeaux de moutons ou de yaks ne peuvent aujourd'hui plus passer. Soudain apparaît une agriculture ensoleillée, sous serre et irriguée, dont la récolte part par camion ou par avion vers Pékin ou Shanghai. De la sorte, en 40 ans, le nomadisme pastoral a été effacé. Et les habitants sont à 90% à la ville, ce qui est très court, 40 ans, pour une transition très douloureuse. Mais cela devait arriver de toute manière, à ce que l'on me dit là-bas, occupation chinoise ou pas. D'ailleurs, cette urbanisation ne correspond pas que à la demande de Pékin pour mieux surveiller la population. Les jeunes la réclament aussi pour mieux étudier, pour avoir de meilleurs emplois et pour avoir la télévision. Ce pays suscite l'émotion à tout moment. Il y a du feu en l'air entre l'influence Han chinoise qui est technique et matérialiste en quête du profit et l'influence tibétaine pour laquelle l'argent est méprisable et où l'on n'hésite pas à parcourir 2000 km de pèlerinage en génuflexion en mendiant son bol de tsampa sur la route. Il y a déjà 30% de Tibétains qui acceptent la loi chinoise. J'en ai rencontré plus d'un qui se disait satisfait de son sort, à côté d'autres qui étaient très insatisfaits. Et dans les boîtes de nuit, les jeunes Tibétains et Han dansent ensemble, sans se demander de quelle ethnie ils proviennent. Je vois deux solutions extrêmes, et toutes les deux sont plausibles. Alors, au pire, on pourrait revoir un bain de sang, où les Tibétains se soulèvent violemment, comme en mars 2008, tuent les Han et cette manifestation-là sera réprimée sans état d'âme, avec des dizaines ou des centaines de morts. Par contre, au mieux, on peut espérer une tolérance, une adaptation lente, une fusion des deux peuples qui créerait une culture nouvelle. Imaginez un peu, les Tibétains apportent leur spiritualité et leur truculence. Les Chinois apportent leur technologie et leur amour du confort. On parlerait les deux langues, bien sûr. Cela permettrait à la région de libérer les énergies extraordinaires qui dorment en elle et d'offrir au monde entier un modèle de société nouvelle vers lequel il aspire. Alors le Tibet serait un laboratoire social de la Terre. Certes, on en est encore très loin, et mon idée peut sembler bien utopique, mais j'ai vu là-bas des germes authentiques des deux scénarios. Et le fait que chez nous, en France, en Europe, on ait si peu idée de ce qui se passe au Tibet, et qu'on vive sur des idées si ringardes et dépassées, cela m'a incité à faire ce livre.
Nous écoutions Éric Meyer présenter Tibet dernier cri pour Bruit de Chine. Alors pour que ce livre voie le jour, il a besoin de votre soutien. Rendez-vous donc avant le 10 décembre sur 365degrés.com/toi-du-monde. Tibet dernier cri, c'est un ouvrage de 208 pages composé du journal de voyage d'Éric Meyer et de 40 photographies noires et blancs de Laurent Zilberman, prises durant leur voyage à travers le territoire autonome du Tibet en septembre 2008. Laurent Zilberman, je le signale, a été parmi les rares photographes occidentaux autorisés à retourner dans la région autonome du Tibet 3 mois après les violentes émeutes de mars 2008. Ces images dressent un portrait nuancé de ce pays où deux cultures, l'une matérialiste, agressivement tournée vers l'efficacité technique et la conquête de nouvelles richesses, l'autre essentiellement spiritualiste, se confrontent et le plus souvent s'affrontent.